Alors, bonjour, je suis donc Sylvain Dumont, professeur de philosophie au LFI d'Arras. Et nous allons organiser donc le 16 novembre, le jeudi, au Sofitel, un café philo sur le thème la philosophie au péril de la science, voire la philosophie au péril de la Silicon Valley. Et j'ai choisi ce thème. Parce que j'ai constaté que même si un pourcentage non négligeable d'élèves s'intéresse beaucoup à la philosophie en terminale, aucun ou très peu choisissent finalement de faire des études de philosophie ou auraient l'ambition de devenir philosophe. Même dans les nombreux cas où ils s'intéressent à la connaissance, ils vont se tourner vers la science. Et les métiers d'avenir, pour eux, sont ingénieurs, médecins, chercheurs, physiciens, etc. Donc, la question que je pose, c'est la philosophie est-elle has-been ou bien a-t-elle encore un avenir? Et à ce titre, j'ai demandé à deux élèves donc, qui sont présents ici de m'expliquer comment ils envisageaient cette question. Et comment, dans leur propre projet d'études et dans leur propre projet professionnel, ils pensaient articuler éventuellement leur goût pour la science et leur intérêt pour la philosophie. Donc, je passe la parole à Joël, qui va nous dire ce qu'il en pense.
Bonjour. Alors, à mon avis, je pense que la philosophie sera une discipline d'avenir autant que la science. À mon avis, en tout cas, la science procure, alors bien évidemment, des nouvelles connaissances. Pour autant, les philosophes, eux aussi, étaient des innovateurs. Démocrite, il a créé le concept de l'atomisme, pardon, et en plus, sans aucun outil scientifique.
C'est exact.
Et les hommes de science étaient eux aussi des philosophes. Isaac Newton, alors. À mon avis, ce que font les philosophes et les scientifiques sont de nature complètement différentes. Je pense que la science permet le monde de devenir de plus en plus moderne, de s'améliorer grâce aux nouvelles connaissances, mais pour autant elle ne répond pas à certaines questions philosophiques, comme une société fondée seulement sur les génétiques. Donnera-t-elle pas naissance à une sorte de monde qu'on voit dans Gattaca, par exemple? Et un homme, par exemple, un autre exemple, un homme immortel est-il toujours un homme?
Oui, c'est un projet de la Silicon Valley, l'immortalité. C'est le transhumanisme et je compte bien effectivement évoquer la question.
Oui, alors je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Joël.
Donc c'est Yann qui prend la parole.
Donc j'ajouterais même que dans ces cas ainsi, la philosophie sert même de cadre à la science afin de ne pas dépasser certaines limites éthiques. Gattaca en est un exemple fictif, mais un exemple présent, actuel, serait par exemple les cobayes lapins qu'on utilise dans les laboratoires afin de tester de nouveaux médicaments, de nouvelles drogues, etc. Et, par exemple, est-il vraiment nécessaire d'utiliser des lapins? Est-il nécessaire en fait de tuer des lapins? Et si oui, quelle est la limite, par exemple? Après ça, j'aimerais bien aussi rappeler que les sciences et la philosophie sont extrêmement liées. En effet, on pourrait même dire qu'elles dépendent l'une de l'autre. Nous pourrions considérer que la philosophie aide à élancer les sciences en donnant des pistes de recherche ainsi que des hypothèses à démontrer et vérifier par diverses méthodes scientifiques. Par exemple, en physique quantique, il est nécessaire, pardon, de passer par des raisonnements philosophiques afin de prédire et visualiser les résultats de certaines théories. Un bon exemple est le chat de Schrödinger, une situation que nous pouvons pas représenté ni modélisé à notre échelle, car la chose en question est dans deux états complètement opposés en même temps. Alors, bien sûr, là, je parle d'un cas où la philosophie et la science sont intimement liées et donc sont obligatoirement existent obligatoirement ensemble en même temps. Mais bien sûr, la science et la philosophie peuvent exister de manière séparée, mais complètement séparée. Les scientifiques peuvent se poser des questions et les démontrer de leur manière, de leur côté, ainsi que les philosophes. Par contre, il est bien plus profitable que les deux coopèrent. La philosophie peut bénéficier des progrès de la science ainsi que des preuves de la science, et vice-versa. Bien sûr, nous devons toujours tenir en compte que la philosophie aurait une longueur d'avance sur la science, car beaucoup d'exercices de pensée ne peuvent pas être prouvés avec les moyens scientifiques actuels, mais le seront possiblement au futur. Bien sûr, certains concepts relevant purement de la philosophie ne pourront jamais être démontrés par la science. Un exemple serait la chambre de Marie de Frank Jackson. De toute façon, être scientifique serait aussi être philosophe d'une certaine manière, non ?
D'accord, mais écoutez, ça me paraît très réfléchi tout ça. De mon côté, je suis aussi passionné par la question de savoir si les neurosciences, par exemple, qui sont très à la mode en ce moment, vont nous permettre ou non de faire l'économie d'une philosophie de la conscience et d'une réflexion purement philosophique sur la nature de la pensée. Donc voilà des sujets qui, à mon avis, sont tout à fait passionnants.